Patrick, il est dans la surface des TV TCL chez Electrodépôt.
C'est clairement du TCL. 190,5 cm Google TV 4K Ultra HD à seulement 799€. Les prix bas chez Electrodépôt, bien sûr.
Oh, quelle qualité d'image! Oh, il rentre dans la zone avec son caddie!
Oui, il la met sur son caddie et c'est une passe décisive!
Passage en caisse, c'est une TV TCL à seulement 799€ chez Electrodépôt.
Vivez de grands moments chez Electrodépôt en magasin ou sur electrodépôt.fr avec TCL.
RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Yoann Durand, le marathonien membre de l'équipe de France, le maître Yodu, de retour au top niveau. Salut Yodu.
De retour au top niveau.
De retour sur les podiums sur la plus haute marche.
Et bientôt, peut-être recordman du monde.
Pourquoi peut-être?
Ah oui, c'est vrai. Il faut visualiser mentalement, positiver, on va y arriver.
Compte à rebours lancé. Aujourd'hui, on est mardi, et donc c'est samedi, ça démarre.
Ça y est,
le record du monde, RMC Garmin, les bonnes infos pratiques seront rappelées en fin d'épisode. Venez nombreux nous soutenir à Charletti, grosse ambiance, les stars du running seront là, les personnalités d'RMC, les shows seront délocalisées, l'antenne d'RMC sera en direct de Charletti, donc ça va être magnifique. En plus, Yodu, il y aura des cadeaux exceptionnels, notamment deux places à gagner pour une soirée d'athlétisme pendant les Jeux Olympiques.
Ouh.
Eh oui.
Ah oui.
Eh oui, une semaine de vacances aussi.
Moi je prends les vacances alors plutôt.
Ah non, bah oui, quand t'es habitué, tu te rends pas compte de la valeur du cadeau. Et il y aura des cadeaux plus ciblés running, mais ça va être magnifique, vraiment. Venez nous soutenir dans toute cette tentative. Et atout supplémentaire pour les coureurs, on va le dévoiler aujourd'hui.
Ah, dis-nous.
Une
tout.
Présence d'ostéopathe pour des massages. Jean-Baptiste Autin, directeur adjoint de l'école supérieure d'ostéopathie, sera avec nous dans quelques secondes. On va tout vous expliquer. RMC Running reçoit aujourd'hui un athlète qui est presque qualifié pour les Jeux de Paris. Une des disciplines reines de l'athlétisme, le 3000 steeple. On va recevoir Louis Gilavert. Il va valider son ticket, on l'espère, au championnat de France dans un mois. On va revenir sur son histoire, sur les étapes qu'il a traversées, sur le chemin qu'il a parcouru pour retrouver son meilleur niveau. Et on va se projeter vers Paris 2024. La séance sera adaptée aussi à son profil et à tous ceux qui vont courir à Charletti samedi et dimanche, les 144 coureurs engagés. Comment gérer et évacuer le stress avant une grande échéance?
Oula.
Parce que Louis a la pression des minima, ça il l'a réalisé. Il va avoir la pression des championnats de France élite. Il va nous dire comment il gère ça.
Alors. Et nos athlètes, ils ont la pression pour le record.
Ah ouais, ils seront direct à la radio, tout seul sur la piste.
Oui, regardez
par
tout le
monde. Tout
le monde les regarde, les encourage.
Exactement. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on apprend à franchir les obstacles aujourd'hui.
Tu vas dans l'arène, t'es prêt à combattre.
Louis Gilavert au passage sur la ligne, il restera un tour. Vas-y Louis. Allez. Louis Gilavert, il ne doit rien lâcher, il ne doit rien céder.
J'arrive en face de la ligne d'arrivée et je vois qu'on a 19 minutes. Je comprends très vite que il me reste au moins 4-5 minutes. Donc je me suis trompé de tour.
Louis Gilavert, peut-être pour la victoire, le coureur de steeple qui va aller chercher la gagne. Allez Louis. Oh, mais qu'est-ce qu'il nous fait? À 10 mètres de l'arrivée, mais c'est quoi ce truc?
Mais qu'est-ce que nous fait Louis Gilavert? Louis Gilavert qui s'accroche aux Éthiopiens. Il va aller chercher les minima pour les Jeux Olympiques.
Et ici c'est Charlotte Pizzo qui va venir remporter ce relais mixte des championnats du France de cross. Pays de Fontaine, Blo Athlétisme qui remporte donc la médaille d'or.
Louis Gilavert, Louis Gilavert, Alexis Blélé, Louis Gilavert qui va faire les minima pour les Jeux Olympiques.
Oui,
Incroyable, incroyable la célébration.
Louis Gilavert, Mehdi Frère, Charlotte Pizzo, Leila Hadji qui célèbre évidemment.
Alors là c'est une vraie équipe de copains aussi.
8-13-46, c'est la meilleure performance française de la saison et la deuxième perf européenne.
Paname, Paname, on arrive.
Et oui, Paris, on arrive. Et Louis Gilavert est en studio avec nous aujourd'hui. Salut Louis.
Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, tous ceux qui nous écoutent et on va passer un bon podcast.
Hey, je t'ai senti transcendé quand t'as entendu les commentaires, là je t'ai senti possédé quoi, t'as revécu ces moments fabuleux quoi.
Ouais, c'est un moment qui transporte un petit peu quand je me revois sur ce stade de Marseille, c'est magnifique de réaliser des minima olympiques, on se rend pas compte. Et c'était pas gagné, pas du tout même. Et une grande fierté, j'ai réalisé ça en plus devant mes proches, devant ma chérie, et devant mon public qui est français. J'ai décidé cette année de pas mal courir en France, pour justement vivre des courses en France, parce qu'il y a une grande échéance qui arrive. Et quel plaisir d'avoir réalisé les minima, assez tôt dans la saison, malgré le fait que les Jeux, c'est dans deux mois.
Ouais.
Et ouais. Un petit moment qui m'a transporté, mais bon, c'est le début
On a entendu une boulette au début. Dans quelle course tu t'es trompé là?
Sur le nombre de tours, c'est quoi cette histoire?
Ah ouais, raconte-toi ça plutôt. Vas-y, fais-nous rire.
Ah non, mais c'était un truc de ouf ça. Ouais. J'étais dans la forme de ma vie, mais vraiment la forme de ma vie. Et en fait, c'est les championnats d'Europe de cross à Tilburg. Et avec les mecs, on faisait que se brancher. Donc, c'était la belle époque. Hein. Il y avait Jimmy, Hugo et moi, Fabien Palco, Mohamed Elbouajagi.
Une bonne petite équipe.
Ouais.
Il y a vraiment du beau monde et moi, la forme de ma vie. Et donc, Jimmy me dit la veille, écoute-moi mec, je te préviens d'avance, je pars un tour direct, je fais un tour tranquille, après je démarre. Je dis, mec, t'es fou, on va te reprendre, on va te dévorer.
Le vrai Jimmy.
Et je lui dis, écoute, t'es fou, mais bon, il y avait une part de moi qui me disait, il va le faire. Et moi, en vrai, j'ai temporisé. Et en fait, à ce que je pensais être le dernier tour... on est un groupe de 3-4 qui chasse Jimmy justement et j'attaque les mecs et puis en fait ce qui a tout fait c'est que quand j'attaquais les mecs ils m'accrochaient et puis j'attaquais violent quand même tu vois et il reste 3000 mètres moi je le sais pas je pense qu'il me reste 800 quoi.
Ouais, c'est différent.
Et puis j'attaque et puis je me détache des mecs après avoir attaqué pas mal et il reste quoi 300 mètres pour moi. Je rentre, je tends mes mains, sprint final et tout. Et en fait, horrible cette sensation. Il reste un tour. Je vois la banderole devant moi qui est tendue, tu sais, genre en gros tourne.
Oh purée.
Et puis là, je me rappellerai toute ma vie. Je tourne les yeux sur le parcours. Donc, je me rends compte de ma connerie, la douche froide. Et je tourne les yeux et je vois Mehdi Bala qui me regarde et qui rigole. Parce que lui, comment on a compris qu'il aime. Et puis mine de rien, je retombe sur mes pattes parce que je fais 8e alors que je me trompe d'un tour. Donc imagine-toi lancer un sprint final et 13 500 mètres, crois-moi, t'as mal aux jambes.
Est-ce que j'allais dire, tu finis, parce que t'aurais pu t'arrêter et te dire, bon, là, je peux pas partir.
À ce moment-là, j'étais sur la boîte et ouais. Je pense vraiment que j'étais capable ce jour-là de faire podium. Mais bon, voilà.
Quelle histoire.
Ouais.
Bon. Vous connaissez hein, tous les deux, vous avez le même équipementier, vous croisez souvent à Font-Romeu. Ouais. Gros talent de l'équipe de France d'athlée.
Complètement. Gros talent. Moi, j'ai son collègue d'entraînement, Flo Carvalho, qui
à Fontainebleau, club.
Hein. Ouais, gros club à Fontainebleau. Ouais. Et Flo m'avait toujours dit, mais il y a déjà très longtemps, hein, que Louis, c'était vraiment la pépite du groupe et que c'était lui le plus fort, mais que des fois, il y avait des blessures, il y avait des ci, des là qui faisaient que toutes les planètes ne s'alignaient pas. Et on voit quand Louis, il n'est pas blessé et que tout s'aligne, ça fait 8-13 sur 3000 steeps, quoi.
Louis, tu restes avec nous, mais tu l'as bien compris, parce que tu connais RMC Running, une grande échéance nous attend avec Johan, avec tous les fans de la communauté, avec tous les fans d'RMC, samedi et dimanche, le record du monde RMC Garmin, la plus grande distance parcourue par une équipe mixte en relais sur 24 heures, tentative inédite, je le précise, inédite, personne n'a tenté cette tentative auprès du prestigieux Guinness Book des records, il y a eu des mois de tractation, le contrôle est très strict, le cahier des charges du Guinness est très lourd, vous le verrez, mais on rêve vraiment d'établir ce nouveau record du monde, d'obtenir cette si précieuse certification, 350 km à parcourir, il y aura 144 coureurs engagés, et nous Johan, on va les chouchouter, notamment avec cette info qui tombe aujourd'hui, on va leur permettre... de se faire masser.
Ah là, ils n'ont plus d'excuses. Je ne veux pas entendre un mec râler.
Voilà, s'il faut qu'il se fasse masser avant ou après, mais on va en parler avec Jean-Baptiste Autin, qui est directeur adjoint d'ESO Ostéopathie. C'est l'école supérieure d'ostéopathie de Paris. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Eh ben merci de nous rejoindre dans ce magnifique projet, Jean-Baptiste. Vous serez présent samedi après-midi et le dimanche également, plutôt vers l'arrivée. Il y aura Antoine Raillard, qu'on connaît bien ici. Souviens-toi, Antoine, on l'a encadré pour la prépa du marathon de Paris.
Ah oui. Rappelle. Oui.
Il
oui.
a fini d'ailleurs le week-end dernier à la Maxi Race d'Annecy. On le salue, Antoine, il sera bien présent. Et on précise aussi qu'il y aura 4-5 étudiants pour l'aider. Ben Jean-Baptiste, merci. Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous associer à nous pour ce projet alors?
Déjà, effectivement, merci à vous de nous inviter sur ce projet. Nous, en tant qu'école d'ostéopathie, on travaille très régulièrement avec les sportifs et on fait beaucoup de stages avec des sportifs. Alors, vous avez parlé d'Antoine Raillard, c'est un de nos enseignants. Effectivement, on a aussi parmi nos enseignants des runners et des trailers. Et donc, tout naturellement, quand Antoine nous a mis en relation pour travailler avec vous sur le RMC Running, on s'est dit, on y va, c'est une occasion super pour nos étudiants. Et puis surtout, ça va permettre de proposer aux participants et puis à l'ensemble des personnes qui sont présentes des soins en ostéopathie sur cet événement.
Jean-Baptiste, les plus chouineurs, c'est les pros, hein, les personnalités en général. Ouais. Durand va passer se faire masser. Nous, les amateurs, les lambda, on a moins l'habitude de.
Moi, j'ai un créneau de 6 heures avant ma course.
Il va ressortir avec des
avec
tags
plaisir,
partout.
Avec plaisir.
Non, mais c'est fou.
Avec plaisir. On a l'habitude des pros. On est parti sur le grand raid de la Réunion, donc on a pu encadrer justement du très haut niveau. Et donc les étudiants, ils ont hâte de se relancer sur ce nouveau défi, sur le raid running.
C'est une question qu'on a dû vous poser 1000 fois, mais quelle est la différence entre un kiné et un ostéo, Jean-Baptiste?
Alors effectivement, c'est une question qui revient souvent, ces deux professions qui sont très complémentaires. L'ostéopathe, il va travailler sur l'ensemble du corps du patient, il va travailler sur la mobilité, les différentes mobilités. Le kiné va avoir une approche qui va se faire aussi globalement, mais aussi spécifiquement, par exemple, sur la rééducation. Donc sur un sportif, on parle beaucoup de massage, alors c'est le kiné qui va beaucoup faire le massage. L'ostéopathe, lui, va travailler aussi sur la mobilisation des articulations pour permettre le meilleur retour veineux et comme ça améliorer les performances ou la récupération.
Si on se concentre sur le défi qui nous attend, Jean-Baptiste, l'intérêt des coureurs, c'est de venir vous voir avant ou après leur passage?
Alors, avant, on peut les voir, mais ça va être des petits réglages, entre guillemets. Il ne faut surtout pas faire une séance d'ostéo juste avant la compétition, parce que sinon, bah, on va déséquilibrer le patient sur ses appuis.
Le dos bloqué.
Et puis juste après, effectivement, là, on va pouvoir travailler pour l'aider à préparer sa récupération. Donc préparer, ça va être de la mobilisation du patient sur les articulations, travailler sur le côté musculaire et puis regarder un petit peu quel est son programme pour récupérer et puis lui donner les bons conseils pour qu'il fasse la meilleure récupération.
Les gars, vous êtes des pros tous les deux, vous consultez régulièrement un ostéo. Toi, Louis, t'as un ostéo qui te suit au quotidien?
Ouais, quand même, j'essaye de consulter assez régulièrement. Maintenant j'ai trouvé un peu le truc qui m'allait bien, c'est à peu près à J-8 d'une grosse échéance.
Ah ouais, t'as été réglé comme ouais, ça, ouais. C'est ce qu'il te faut. Ouais.
En fait j'aime bien faire les choses de manière très structurée et c'est comme ça que je suis le meilleur parce que je sais que je fais les choses bien et comme ça marche bien. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut fonctionner même.
Yodu, comment tu fonctionnes toi par rapport à ça?
Ouais, ostéo, j'essaye quand même de faire un petit bilan de check-up, même quand j'ai pas forcément de douleur tous les deux mois pour remettre un peu tout, retrouver de la mobilité articulaire et tout ça. Et après kiné, bah, c'est souvent soit un massage de récupération, soit c'était surtout pour soigner des pathologies ou faire du renforcement, les choses comme ça quand t'as des petits bobos. J'en ai vu un paquet pendant un an et demi.
Bah oui.
Donc là c'est soulagement d'y aller juste pour se faire masser, discuter et récupérer, tu vois, c'est une autre approche que quand il va pour faire parce que t'es blessé. Ouais.
Parce qu'on pourrait se dire l'effort des coureurs va être de seulement 10 minutes, mais Louis est le bon exemple. Louis, vous vous dites il court 8 minutes oui. 13 là, il a couru 8 minutes 13 à Marseille, mais l'intensité est tellement folle, comme vous allez vous donner à fond, vous finirez cramé et vous refuserez pas comme ça un soin de l'ostéo, quoi. Jean-Baptiste, vous allez récupérer les cadavres.
On se prépare, on y est prêt.
Bon bah super, merci beaucoup Jean-Baptiste de vous associer à nous. On mettra le lien d'ailleurs de votre école supérieure sur nos réseaux sociaux et puis on se voit samedi quoi qu'il arrive avec vos étudiants,
avec du tape,
Antoine.
Hein,
avec du tape. Voilà. Si possible couleur des RMC, rouge et noir, ça serait top. Bon, merci Jean-Baptiste, à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Salut.
T'as vu comment les chouchoutes quand même.
Ah bah non, mais là je te jure que le premier qui est pas performant, il faudra qu'il me trouve une bonne excuse.
Et si on mettait du tape pour tenir le témoin, tu vois, autour de la main, pour être sûr qu'il
t'en
parle.
Bonne idée.
On va réfléchir à ça, mais il faut s'arranger avec le juge du Guinness et ça, c'est pas gagné. Louis, on poursuit justement le témoignage que tu nous apportes et on raconte ton histoire avec ton CV de coureur.
RMC,
le CV de coureur.
Rappelle-nous ton âge, Louis Javert.
J'ai 26 ans.
Tu cours depuis que t'as quel âge?
Oh là là là. Ça va faire trop longtemps, je pense. Je dirais Poussin, ouais. Poussin.
Oh la Poussin,
oui, il a
Poussin,
dernière,
Poussin dernière année,
quoi, 8 ans
juste avant Benjamin. Non, je pense pas.
T'as fait du lancer de javelot et compagnie,
ouais,
tout ça?
Ah ouais, j'ai fait. Javelot, ouais, mais ça m'a très vite énervé. Ça. Même j'ai fait du 100 mètres, je me rappelle, je me suis retrouvé sur une ligne, les deux mains sur la piste et tout. J'ai regardé ça, droit devant moi, mon entraîneur, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu te prends pour Usain Bolt.
Tu cours combien de fois par semaine?
Deux fois par jour, tous les jours, sauf le dimanche et le samedi. Le dimanche une fois et le samedi repos complet.
Ah, quand même une journée de repos complet indispensable dans la semaine. Bravo. Ça représente combien de kilomètres pour toi le stipler?
Donc la course en elle-même c'est 3 km, mais pour
l'entraînement... Non, je te parle de le volume kilométrique sur une semaine. Ouais.
Mais moi je suis pas un... Donc mon entraînement marche avec beaucoup de qualité et donc du coup on fait pas trop de densité, de... ouais, de kilométrage. Et du coup, on va être entre 90 et 120 max.
Ouais. École Durant, ça.
Ouais. 90-120
Ouais. Non, ouais. Mais école Durant.
Ouais,
la qualité,
oui, beaucoup
quoi.
De qualité, ouais. Ouais, ouais.
Beaucoup, beaucoup de qualité.
Record perso dont tu es fier.
Ouais, bah là, on peut le dire, hein, 8-13-47 sur 38 mètres. Type,
tout récent.
Ouais, et mon 1500 aussi. En vrai, je suis content, mais bon, ça, c'est que partie remise. J'ai fait 3:36.09. Exactement.
Mais à la maison, tout seul.
Ouais, à
Fontainebleau, dans un petit meeting.
Et là, je vais rentrer à Nice. Et d'ailleurs, bah, ça permettra de faire l'annonce. Je rentre à Nice pour le 15 juin dans un 1500 mètres assez relevé. Et là, on va essayer de baisser le chrono, malgré le fait que ce soit dans une belle semaine d'entraînement.
Bon, tu me permets de mettre un coup de pression à nos personnalités attendues sur le record du monde. Si jamais il y a un forfait, c'est Louis qui vous remplace.
Oui. Et là, il est là, le remplaçant.
Et là, il peut tarter tout le monde.
Ah, ouais. Et là, on va envoyer.
Voilà. Quelle est ta séance d'entraînement préférée?
Bah écoute, je l'ai semaine prochaine, là. C'est 4 à 5 fois 400. En fait, j'aime bien lâcher les chevaux. Et voilà, on va courir aux alentours des 52 autour.
Donc 4 à 5 fois 400 mètres en 52 secondes.
Ouais, ouais. À balle. C'est une SP15 un peu.
Ouais, même sur du 800
SP8.
000. Ouais, SP8. Ouais.
Tu vas aller vite.
SP8. Et là, ouais, on va essayer de tourner entre 50 et 52.
Ah oui.
J'ai fait 51 de moyenne la dernière fois que je l'ai fait. Et là, on va essayer de tourner aux alentours des 50. Ce serait histoire de montrer qu'on a bien progressé, ouais. Notamment sur le secteur de la vitesse et musculaire.
Ça va vite, hein.
Oui, 50, de 25 au 200.
Ah, exactement. Ouais, c'est, rampe, quoi. C'est quoi la séance que tu détestes?
Oh là 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 là. Ce que je... En vrai, hein, malheureusement, je suis demi-fondeur et je déteste faire du long. J'aime pas.
Ah, on te verra jamais sur semi ou marathon alors?
Ah, c'est... ça veut pas dire que j'en ferai pas.
Ah, ouais.
Ça veut mais pas t'aimes dire... pas ça, ouais.
Mais j'aime pas forcément ça, ouais.
Ok.
Ça veut dire que
est-ce
je vais
que t'es
vite
bon, t'es bon sur 5 km aussi,
hein. Ça va. J'ai pas fait le chrono que je voulais faire pour l'instant. Je pense que je suis capable de faire des beaux chronos. Mais malheureusement, la dernière fois que j'ai fait un 5 km, bah, j'ai fait les championnats de France.
Bah, t'as été champion de France?
Exactement. Et avant ça, j'ai fait un 5 km à Malaga, je sais pas si tu te rappelles.
Ouais.
Ah oui, avec votre équipementier.
Et, ouais. Et je crois que je fais je sais pas, un truc comme 29 secondes au dernier 150. J'ai complètement explosé.
Ah ouais?
Ouais, on est loin des allures du 400 à l'entraînement.
Les allures à moi.
c'est vraiment dur. Et puis ça montre que le 5 km, 10 km, c'est un effort qu'il faut vraiment bien gérer et apprendre à gérer.
Parce faut sinon, faire du long, hein. Ouais. Il faut avoir une petite base solide.
Tu te fais rattraper très vite par ton corps.
Alors, on est ravis de recevoir Louis Gilavert cette semaine avec nous dans RMC Running. Tu vois, j'avais préparé mon interview, je m'étais dit, ça y est, c'est fait, t'es content, Paris 2024, s'ouvre à toi, t'as fait les minima, 8-13 à Marseille, tu reviens de loin ensuite, etc. Mais on a discuté juste avant, en fait, c'est pas vraiment fait. Et c'est toute la complexité de la Fédé française d'athlée, c'est qu'en fait, tu n'as pas encore à 100% validé ta place pour les Jeux Olympiques, Louis.
Ouais, je dirais que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 80% de mon corps, même 75% de mon corps.
Il manque la tête.
À Paris, exactement, ouais, c'est ça. On va dire que j'ai les jambes, j'ai les bras, j'ai le buste, mais il manque la tête. Et en fait, c'est parce que dans les modalités de sélection, il faut déjà participer au championnat de France, quoi qu'il se passe.
Ouais,
fin juin, ouais.
Le 29 juin. Et ensuite, il faut être dans les trois premiers et avoir réalisé les minima. Donc j'ai réalisé les minima, ce qui est en vrai une très grosse partie du travail.
Ouais.
Et après, pour le moment, on est quatre éligibles pour les Jeux Olympiques.
Donc... On peut les citer, d'ailleurs, Djilali Bedrani,
Alexis Miellet,
Guillaume Daru qu'on a reçu, qui avait très très bon au cross.
Ouais. Nico Daru, ouais. Et Nico, t'as Alexis Feuillu aussi, qui n'est pas rentré, mais qui a pour déjà couru vite dans le passé.
Qui a les qualités pour le faire.
Donc sur ce type, ouais, ils sont 5 pour 3 places. Ouais.
Ouais.
Donc c'est un...
Et si tu fais podium, tu y es?
Ouais, théoriquement. Après, voilà, aujourd'hui, je pèse mes mots par rapport à tout ce qui se passe autour de la fédération. Et moi, bah, je viens de me faire avoir en plus par rapport aux modalités de sélection qui sont en réalité assez bien écrites. Après, malheureusement, moi, aujourd'hui, je suis premier au bilan français, deuxième au bilan européen, et les gars, il y a les championnats d'Europe qui sont là cette semaine.
Ce week-end.
Ouais. Et malheureusement, je ne peux pas y participer parce que je suis quatrième au ranking. Mais c'est la loi du sport aussi, attention.
Ouais. Alors, c'est la bonne nouvelle du jour, d'ailleurs, vous avez suivi cette histoire, mais Asdin Haps et Simon Bédard n'étaient pas inscrits sur la liste. Et quand même, comment on peut en arriver là ? Ça devient grotesque. Heureusement, c'est la bonne nouvelle, ils peuvent participer. Mais
heureusement.
Johan, c'est encore un exemple concret de voir que la Fédé, malheureusement, on pèse nos mots, mais ils ne sont pas au niveau de, du très haut niveau.
Non, mais ça, c'est une boulette inadmissible, c'est indéfendable. C'est impossible que ces choses-là puissent arriver. Mais au-delà des deux athlètes qui ont été oubliés, en plus, on avait laissé, on avait 13 athlètes, dont Louis, qui était inscrit, présélectionné par European Athletics, que la Fédé a oublié d'enlever et qui prenait la place de 13 autres athlètes d'autres nationalités qui auraient pu concourir. Donc là, tout ça a pu rentrer dans l'ordre, mais une nouvelle fois, cette fédération, on passe pour des peintres. Nous, les athlètes, on se donne à 2000% pour participer à des grands championnats et les mecs, ils oublient
L'année des Jeux
l'année
à Paris,
des Jeux, ils oublient de cocher des cases de deux athlètes pour les inscrire au championnat d'Europe. C'est le niveau amateurisme 100%. Mais bon, c'est comme ça, c'est rentré dans l'ordre, tant mieux. Et par contre, pour revenir au cas de Louis, ça montre une nouvelle fois que le ranking, c'est un système très particulier qui, pour moi, est pareil. C'est un truc, c'est une usine à gaz, c'est ultra compliqué. Et donc, Louis, cette année, il est meilleur performeur français, il est deuxième européen et il ne peut pas participer au championnat d'Europe parce que l'année dernière, il était blessé. Et que du coup, au ranking, il aurait dû courir un autre 3000 type. Donc effectivement, ce système-là, pour moi, il n'est pas juste, ce système de ranking. Se baser sur ça pour faire les sélections, c'est...
On l'a souvent dit ici, nous, on parle souvent de l'exemple américain avec les trials. Ça se joue sur un week-end, là, vraiment, tu joues ta place sur un week-end. Est-ce que tu trouves ça mieux, Louis ? Ou est-ce que finalement, tu préfères quand même notre système, même s'il a des défauts ?
En réalité, moi, je pense que le ranking, c'est très bien fait, mais faut savoir l'utiliser, en fait.
Faut pas être blessé, faut pas avoir de saison.
Oui, mais en dehors de parler de l'aspect athlète, pour la fédération, ils pourraient vraiment s'en servir, mais dans le cadre où, par exemple, une personne ne réalise pas les minima. À partir du moment où on est plusieurs à avoir réalisé les minima, je comprends pas que le ranking passe devant un chronomètre. Moi, c'est ça qui m'a frappé.
Ouais, bien sûr. Il faut que le plus rapide aille au jeu, quoi.
C'est ça. En fait, il y a une partie de moi qui était hyper frustrée parce que, en gros, ça veut dire que demain je fais 8,05. Donc, ça veut dire que je mets 8 secondes au deuxième au bilan européen.
Ça change rien.
Ça change rien.
Bon, alors d'aujourd'hui, je passais devant. Mais si la même situation où je me retrouvais quatrième. Au bilan français, j'y allais pas quand même. Et ça, je trouve ça fou. Parce que là, je suis potentiellement une chance de médaille, mais un mec qui est vraiment au-dessus du lot, il peut se faire avoir par ça. Et ça, je trouve ça fou.
Toi, tu as déjà connu les Jeux. Tu étais à Tokyo. Hein. Tu as été sorti en série, des Jeux très particuliers. Je l'ai dit au début, Johan, mais le 3000 steep, ça fait partie des disciplines reines. C'est une course que tout le monde adore regarder.
Ouais, et
on a eu des champions.
C'est ça. C'est une discipline comme le 110E ou la perche.
Tradition française.
C'est la tradition française. On a toujours eu des très bons athlètes avec Mayedine, Bob, Johan Koval aussi, qui va aussi tenter de faire les minima. Ou du moins s'en rapprocher, qui est revenu sur steeple. Joseph Mahmoud à l'époque, on a eu des grands athlètes sur le steeple. Et c'est vrai que les haies nous réussissent bien parce qu'on a des bons techniciens là-dessus. Ouais. Et Louis est pas le meilleur des techniciens, mais c'est quelqu'un qui se défend bien et qui a des grosses qualités sur le 3000.
Pourquoi le steeple ? Ça l'aide. Pourquoi c'est ce qui favorise le mieux tes qualités ?
Ouais, en vrai, on en a très bien parlé juste là. En fait, moi, c'est Maïdine qui m'a vraiment motivé. Quand...
C'est fou, hein ?
C'est en partie lui qui a fait que j'ai commencé le 3000 steeple. Quand je regardais, c'était magnifique. C'était Maïdine contre l'Afrique entière.
Ouais.
Et il avait vraiment cette qualité de vitesse et à la fois l'aspect technique. Et c'est un peu spectaculaire, je trouve.
Ouais.
Ah, c'est spectaculaire.
Et j'ai adoré, j'ai vite accroché, en fait. Donc, moi, directement, j'ai dit à mon entraîneur que je voulais faire du steeple. Il m'a dit, écoute, on va essayer. On a essayé, il m'a dit, écoute, c'est pas mal. Et on s'est lancé. Et puis, en vrai...
Parce qu'au départ, il pensait que tu avais un profil de coureur de 1500.
Ah, plus miler, peut-être.
Non, pas du tout. En fait, moi, je me suis révélé très, très tard sur le 1500. Et on savait que j'avais des qualités, mais j'avais jamais posé une performance.
On savait pas où.
Une course, ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, moi, j'étais plutôt un coureur, 3000, 2000, je pense, ma discipline vraiment d'excellence, c'est le 2000, okay. Vraiment, sans déconner.
Dommage, il n'existe pas.
Ah ouais,
le 2000 type, j'étais vraiment bon quand j'étais jeune.
Ça existait, tout à fait.
Et je pense que le 2000 plat, c'est la distance
C'est la distance qu'il te faut. Voilà, la durée.
Mais après, voilà, j'ai eu une période assez difficile avec le steeple où je ne savais plus franchir les barrières. C'était limite des refus, etc.
Ah, il y a un aspect psychologique, parce que le steeple, il faut passer dans la rivière, il faut sauter, il faut
faire attention. Ouais, tout à fait. Et en vrai, c'est... Je pense que c'était plutôt un blocage mental que physique, parce que à l'entraînement ça se passait vraiment bien et en compétition des fois je sortais totalement du truc quoi.
Ouais.
Et notamment avec la finale à Munich où vraiment je suis dans la forme une fois de plus dans la forme de ma vie.
2022.
À fait.
Les Europes.
Et en vrai je passe des séances à Forum et les gens ils tremblent quand ils sont sur la piste, je te jure. Et malheureusement ça fait 15e en finale parce que voilà, je tape un moment une barrière et
ça te sort de la course.
Ça me sort complètement du truc et je suis une 15e d'une course où je dois faire au moins finaliste. Et pas mal de frustration ce jour-là. Mais le steeple, c'est quelque chose qui a été révélé assez tôt chez moi.
Ok.
Et KD1 après record de France. Et...
Parce que pour le 5000, le 10000, on parle souvent d'un aspect tactique. Mmh. Début de course assez lent sur toutes les courses de championnat, puis après ça accélère dans la deuxième partie de course. Il y a autant de tactiques sur du steeple ou c'est différent vu qu'il y a beaucoup de difficultés et là c'est vraiment de la qualité physique qui fait la diff?
Non, moi je pense que le steeple en vrai c'est une course d'attentiste.
Aussi, ouais.
Ouais.
Je pense que... Donc il faut du punch à la fin pour aller chercher.
Ouais, ouais. Et puis c'est souvent des très bons coureurs de 15 qui excellent dans le domaine du steeple. Mmh. On voit à l'heure d'aujourd'hui un gars comme Guillerma qui vient de faire 8-0-1 là.
Ouais.
Et en vrai, c'est un mec qui a fait 3-31 je crois sur 1500 mètres. Et la majorité des excellents coureurs de steeple, c'est soit des très bons tacticiens, techniciens, soit des très bons tacticiens d'ailleurs, et des bons coureurs de 15, quoi. Et on voit, deux exemples, c'est un gars comme Lamecha Girma, là, qui a fait donc 8-0-1, 3-31, qui est excellent sur 3000 mètres, etc. Et un gars comme Ezekiel Kemboy, qui est à côté de ça... Il excellait pas forcément donc sur les courtes distances, mais c'était un excellent technicien. Ouais. Et tu voyais son kick à 300 mètres de l'arrivée.
Capable de mettre une accélération.
Et une énorme frustration pour moi d'ailleurs, et je l'avais dit à Maïdin, punaise, pourquoi tu l'attaques pas à 500 mètres de l'arrivée? Et il n'aura aucune chance, parce qu'il attendait que ça les derniers 300, mais il était intouchable.
Ouais. La star de la discipline, c'est Soufiane El Bakkali, le Marocain.
Oui, c'est ça.
Aujourd'hui, avec Girma, vraiment.
Lui qui a une dimension énorme, hein, on se rend pas compte, mais Maroc, c'est une superstar.
C'est dingue, hein, tout ce qu'il a pu réaliser. Et puis, c'est quelqu'un qu'on voit depuis assez jeune, donc qui était prometteur et qui après est venu.
C'est une sorte de successeur d'Hichamel Guerrouche, quoi, parce que dans le cœur des Marocains, c'est la star de l'athlète aujourd'hui.
Possible,
parce que c'est beau ce qu'il fait, ce qu'il réalise aujourd'hui sur steeple. Et puis, moi, j'aime bien le fait que ses performances soient cohérentes par rapport à ce qu'il a fait étant jeune. Et je trouve ça important. Moi, c'est un peu comme ça que je juge un peu, d'une certaine manière, les coureurs. Mmh. C'est leur progression, mais en fonction de ce qu'ils ont réalisé plus jeune.
Ouais.
Pour moi, un coureur qui a été assez performant jeune, il y a une vraie cohérence et une vraie progression, tu vois. Et ça, j'aime beaucoup. Et Soufiane El Bakkali, c'est un gars qui a fait podium au championnat du monde junior, je crois.
Ouais.
Et c'est une performance déjà.
Alors, on l'a dit, Johan, Louis est issu d'une génération française exceptionnelle.
Ah,
parce que Louis, tu fais beaucoup de cross aussi, on l'a entendu. Tu as gagné avec ton club de Fontainebleau, un énorme club. Tu as été de la génération de Jimmy Gressier, donc vous aviez une équipe aussi fantastique. Tu as fait plusieurs fois les Europes. Vous êtes champion d'Europe par
exemple. Plusieurs fois.
Et puis même au niveau mondial de ta discipline, tu fais partie de cette génération Ingebrigtsen aussi, parce que tu as terminé déjà derrière en 2017 aux Europes juniors avec Alexis Felu justement.
Ouais.
Là aussi, la densité, tu la connais depuis que tu es tout jeune en fait.
Ouais, et en vrai, il y a des gens qui diraient, mais punaise, j'ai pas de chance, je suis tombé dans cette génération. Et moi, en fait, je ne vois pas du tout ça comme ça.
Ouais.
Pour moi, c'est une chance de très jeune avoir connu des championnats assez denses où il y avait un mec très dur à aller chercher. Et,
Parce que ça te pousse vers l'excellence?
Ouais, bien sûr, tout à fait. Ouais. Et de plus en plus, moi, par exemple, j'ai de plus en plus envie d'aller m'entraîner avec les mecs. Souvent, les steeplers, je leur envoie un message, je leur dis ça serait bien qu'on s'entraîne ensemble et tout ça, qu'on fasse des séances techniques. Et on va le faire, hein, c'est sûr. Mais... tout ça, ça te propulse. Moi, par exemple, c'est au championnat d'Europe à Samorin en 2017, je crois. Il y a Ingebrigtsen dans la course, il y a moi, il y a Nikelaf, il y a un Turc, j'ai oublié comment il s'appelle. Et on est 4-5 dans le dernier tour, et Ingebrigtsen ou pas, moi, j'ai pas peur. Et
non, bien sûr.
À 1500 mètres de l'arrivée, tu vois, je l'attaque. Et puis ça, c'est des trucs qui, plus tard, tu t'en rappelles, tu te dis, mais attends, j'ai fait ça ce jour-là, et aujourd'hui, je vais pas me permettre de faire, je sais pas, d'attaquer un Soufiane El Bakkali, d'attaquer un Girma.
Ingebrigtsen avait déjà la hype autour de lui.
Oui, bien sûr.
Avec ses grands frères qui étaient
là. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est une histoire de famille.
Bien sûr. C'est quelqu'un qui a été très prometteur déjà très très jeune. Et en fait, dès qu'il arrive sur la piste,
Ouais.
Non, donc une fois de plus, tu vois, c'est pour ça qu'Ingebrigtsen, c'est un gars que je respecte. C'est un gars, depuis très jeune, il s'entraîne très dur.
Oui.
Et il a une progression qui est plutôt constante. C'est vrai qu'il est passé de certains chronos, tu te dis, ah ouais, quand même, il s'est passé quelque chose là, tu vois. Et ça a dû notamment passer par la piste, par la muscu, etc. Et ouais, un grand champion.
C'est quoi les qualités d'un bon stipler, Johan ? Qu'est-ce qu'il faut ?
Bah, il l'a dit, hein, il faut avoir un coup de kick pour finir fort, ça c'est sur la fin de course, mais il faut aussi une grosse base de caisse, parce que malgré tout, tu cours pendant 8 minutes, 8 minutes 15. Donc,
à quelle allure d'ailleurs ? C'est quoi l'allure en kilomètre heure qu'on se rend compte ?
Ouais, c'est 2,45.
2,45, ça fait 8,15 à l'arrivée, ouais.
Les minima pour les jeux, c'est 2,45.
Ouais. Donc,
t'es à 22 à l'heure ? 22,5
Et donc du coup, ouais, il faut cette base de coureur de long, parce qu'en plus musculairement, quand tu cours un 3000 steep, c'est comme si tu avais couru un 5000 d'un point de vue musculaire. Donc faut cette qualité de coureur de long, faut ce kick pour finir vite, et puis après il y a l'aspect technique, le passage de barrière, de pas faire ce qu'on appelle des refus. Lui connaît bien le milieu, mais c'est ça.
C'est quoi la hauteur d'obstacle?
Donc on est à 80,4 cm, je crois.
Ok.
Un truc comme ça. Ouais. Et c'est vrai que, comme il dit Yodu, moi je suis pas forcément le meilleur technicien, même pas du tout. Et c'est ce qui m'a porté un peu préjudice jusqu'à aujourd'hui. Et je suis content parce que là je commence à être vraiment pas mal sur les obstacles.
Comment ça se travaille l'entraînement ?
Il y a énormément de choses. Hein. Bah là, moi par exemple, là j'ai une séance typique qui arrive vendredi. Et on a une séance donc d'endurance musculaire.
Ouais.
J'appelle ça comme ça.
Ouais.
Et en fait, on part sur 12 x 400 allures VMA, donc entre 1-0 et 1-2.
Okay.
Et après, on a 8 à 10 x 400 avec des barrières, ce coup-là.
Donc barrière, même hauteur, 80 cm ?
80 cm, ouais. Okay. Il y a des moments où on les baisse un peu parce que sinon c'est trop traumatisant. Même on en retire autour, on en met moins. D'habitude, c'est.
80 ou 91 ?
91.
Ah, 91. Ah ouais,
91. Et la taille juste en dessous, c'est 84. Et des fois, on travaille à cette hauteur-là, histoire de moins charger, histoire de. Voilà. Mais là, sur la séance qui arrive, du coup, ça va être 4 barrières, je pense, pas 5, parce qu'il y a 4 barrières plus une rivière.
Ouais.
Donc, ça va être 4 barrières, hauteur 91, et on va enchaîner les tours sur des allures de 8-15. Quoi.
28 barrières à sauter sur un steep.
Eh ouais.
Et 7 rivières.
Ouais.
Donc, musculairement, t'imagines 28 sauts de 90 cm.
Parce que tu parlais tout à l'heure du 110 mètres haies qui est très technique.
Oui.
Parce que là, c'est un sprint. Donc, forcément, tu connais le nombre de haies, tu connais le nombre de foulées, etc. Là, c'est de la distance longue. Donc, il y a peut-être moins cette approche comme ça de calcul de foulée.
Et du coup, il faut passer des deux jambes.
Comment tu fais ?
Donc, du coup, moi, ça a été. Au début, c'était assez spontané. Et je pense que c'est comme ça qu'on est le meilleur. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je dis bonjour à Alexis Mielet, un nouveau venu sur la discipline. Et en fait, je pense qu'il est super bon cette année parce qu'il n'a pas encore rencontré déjà ces types vraiment durs. Et ensuite, les barrières, on a l'impression qu'elles viennent.
Il les prend comme elles viennent.
Voilà, exactement.
Jambes droites, jambes gauche,
jambes droites, jambes
gauche.
Et ça, c'est super bien. Bon, j'imagine que ça.
Exactement.
J'imagine que ça a vraiment été du travail quand même parce que, enfin, sans travail, il n'y a rien. Mais voilà, l'apprendre comme elle vient, comme il dit c'est vraiment un avantage et en fait, ça te permet de perdre le moins de temps possible.
Ouais.
Et en fait, je pense que ça va être ça sur notre discipline, perdre le moins de temps possible qui t'en fait gagner en fin de compte.
Ouais, c'est ça. Donc toi, peu importe, t'attaques jambe droite ou jambe gauche, la façon dont ça se présente, quoi.
Ouais, ça a été beaucoup de travail. Hein. Donc on a des travails techniques, donc ça va être des séances techniques comme tout le monde peut connaître, franchissement de haies, mais à l'arrêt, hein, en marchant.
Ouais.
Donc pour donc, la souplesse de
bassin. Comme des gammes, quoi. En fait.
Ouais,
des
tout
gammes.
À fait. Ouais. Et après, il va y avoir les séances spécifiques où là, vraiment, tu vas mettre des barrières et tu vas les franchir à allure de course. Et ensuite, là, t'auras des séances juste technique, mais en les franchissant sur des 100 mètres, des 200 mètres, juste histoire de régler. Et puis il y a les séances de rivière aussi.
Après,
il y a les spécialistes.
Pour apprendre à courir les pieds mouillés.
Les pieds.
Voilà, c'est soit les pieds mouillés, soit les pieds dans le sable. Et nous, on est.
En vaut mieux l'eau, non ?
Non, non. Ouais, l'eau, en fait, donc on saute une rivière qui fait à peu près 3,20 m, il me semble. Et donc à 91 cm de hauteur.
C'est fou ce truc.
Ouais, ouais. Ouais. C'est vrai que quand tu parles, quand tu as une discipline, tu peux te dire, mais le mec, c'est des barjots.
Non, mais c'est dingue. Dur.
Et encore pire, tu te dis que ça vient du cheval. Quoi,
ah là. Oui, bien sûr, c'est ça l'histoire.
Les mecs, ils se sont dit, bah, tu sais quoi,
tiens, allez.
On va prendre ça. Allez. Ouais. Les chevaux, ils font ça, on va le mettre sur une.
Exactement, c'est fou.
Sur la piste. Et ouais. Mais d'ailleurs, bah, j'adore les courses de chevaux et je m'en suis inspiré. Et ouais, à l'heure d'aujourd'hui, je reprends du plaisir à franchir des barrières et je reprends du plaisir à courir sur ce type.
Qu'est-ce que ça te cause comme problème de courir pieds mouillés? Ça favorise les ampoules? C'est dur?
Non, moi vraiment, ouais, je fais.
T'es pas comme ton pote Mélifrère à courir sans chaussettes?
Non, pas du tout. Ouais, je fais totale abstraction de ça. Okay. Et puis ça me dérange pas. Et puis même limite, c'est un jeu. Des fois, je me dis, allez, je touche pas l'eau là, ce coup-là.
Tu pousses un peu. Il faut de la force, hein.
Ah ouais.
Mais le problème, c'est que plus tu veux en mettre de force,
plus
après, tu perds un peu d'énergie. Puis il faut apprendre à passer les obstacles en peloton aussi. C'est pas toujours simple quand t'es dans un peloton groupé, dans une course de championnat à 10-12 où ça bouscule. Tu vois souvent des mecs. Bah, venir couloir 3 pour être à l'aise pour sauter, sauf que tu fais plus de distance. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect tactique qui est...
Tu t'es essayé toi un peu?
Jamais.
Jamais
de ma vie j'ai mis les pieds sur un steep.
Ah, pourtant il y a tout ce que t'aimes, les obstacles et l'eau.
Non, j'ai pas de souplesse de bassin, j'ai pas du tout d'ouverture de hanche, je suis pas du tout bon là-dessus, donc j'ai même pas essayé. Ouais. Et puis la vraie problématique que j'ai rencontrée, c'est qu'en fait là où à Bergerac j'avais pas de stade. Donc qui dit pas de stade dit pas de haie, je m'entraînais sur une cendrée. Donc un peu comme les coureurs kényans, tu vois leur technique, elle est quand même... Bah, Kemba, il n'était pas le plus grand technicien du monde, mais par contre...
Mais tellement fort,
ouais. Tu le vois, ces mecs-là, ils ont une technique. T'imagines le temps que tu pourrais gagner, l'économie de course que tu pourrais avoir s'ils apprenaient à passer des barrières un peu mieux.
Dans un instant, on va parler de tous les soucis physiques que tu as rencontrés. Ça paraît dingue, mais un coureur comme Louis a souffert du syndrome de l'essuie-glace des deux côtés. Donc
de courir dans l'eau.
Ah, c'est fou. C'est fou. Ouais, l'essuie-glace dans l'eau. Ah oui, c'est ça le problème. On les fait tout le temps tourner quand c'est l'hiver. Par rapport à ça, au steeple, les grandes échéances qui t'attendent, comment tu as construit ta saison? Tu es allé chercher les minimales à Marseille il y a une dizaine de jours. Est-ce que tu peux nous parler de tes cycles d'entraînement? Comment tu fonctionnes avec ton coach? Nous, on parle tout le temps avec Johan de planification parce que c'est la clé de la progression pour tout coureur, pro ou amateur. Comment tu fonctionnes, toi? Comment sont organisés tes cycles comme ça?
Ouais, déjà, c'est hyper important de le dire. Moi, je travaille en équipe et c'est pour ça que quand je réussis, je dis toujours « nous » ou « voilà,
mais nous, c'est
on
qui,
l'a fait ensemble ». Donc nous, c'est... En vrai, c'est une grande équipe et puis c'est pas qu'une équipe, c'est une famille. Donc il y a moi, mon entraîneur, Thierry Chauffin.
Ah, Thierry Chauffin, bah, référence.
Il y a, mine de rien, mon équipe, c'est aussi mon manager, Riyad Ouled.
Ouais.
Et ensuite, y a ma famille qui est tout autour. Et bien sûr, mon kiné, qui est Arnaud Mestro, et qui est un petit peu malade pour le moment, mais que je vais revoir assez rapidement.
Ok.
Voilà, et donc avec toute cette équipe, on met en place une planification, qu'elle soit médicale, qu'elle soit donc au niveau de l'entraînement, ou qu'elle soit au niveau de la planification des compétitions. Déjà, ça te permet de te préparer sereinement.
Ouais.
Et ensuite, rien que concernant l'entraînement, nous, on fonctionne sur un cycle de 4 semaines. Le cycle de 4 semaines, il comprend 3 semaines d'entraînement assez intensive et une semaine où tu vas assimiler le travail que tu as fait, où tu vas réduire un peu la qualité.
Ça ressemble à une prépa marathon.
Tout à fait. C'est des prépas classiques.
Ouais, c'est ça.
Et tu vas, sur ce bloc donc de 4 semaines, tu vas en faire 3. Donc c'est à peu près 3 mois.
Ok.
Et ce qui va donner un bloc donc de 3 mois. Et nous, on sait qu'on peut viser un pic de forme après ça à peu près.
Donc là, on parle de prépa foncière. Là, on est au début de saison.
Non, même pas. Non, vraiment, on fonctionne comme ça pour tout. Ça veut dire que, par exemple, à Foromeux, j'ai eu 3 semaines assez dures.
Ouais.
Je demandais un jour de repos. Thierry me disait, écoute, non, là, tu vas pas faire repos.
d'accord.
Il me disait, tu vas pas faire repos, tu vas t'entraîner, tu pousses encore, encore 3-4 jours et après, on se repose pendant une semaine.
Ok.
Et en vrai, ça marche assez bien pour moi et ça ne fonctionnerait pas pour tout le monde.
Ouais.
Et c'est pour ça que je reste encore avec Thierry et que ça se passe super bien.
Tu fais du test lactate, tout ça, pour voir où t'en es?
On s'y met un petit peu, mais il ne faut pas s'y perdre une fois de plus.
Ouais.
C'est une base de données dont il faut se servir. Mais on voit, il y a des mecs qui deviennent des fous du boîtier.
Ouais.
Je ne suis pas du tout
obsession.
Pour.
Il y en a pour qui c'est quotidien, c'est fou.
Non, ils font tout avec.
Ouais, c'est... Et, enfin, je vais pas juger, hein. Chacun fonctionne comme il a envie, et puis si ça marche pour eux, tant mieux. Mais vraiment.
Test de lactate, hein, c'est la piqûre au doigt, hein, pour analyser le sang et voir la fatigue générée par l'entraînement.
C'est ça, par les lactates.
Et donc par les lactates, ouais. Et en vrai, on fonctionne pas trop comme ça, on marche assez aux sensations, etc. Et puis je pense qu'à un moment, dans notre sport, et Johan, il saurait le dire comme moi, mais il faut savoir poser le cerveau et il faut savoir juste travailler. Cérébral, tu te dis allez, maintenant faut y aller, et puis je sais pas si t'es la tête, ils y sont pas, bah t'as même pas besoin de le savoir, t'y vas, et puis c'est ça en fait qui va te faire passer des caps, etc. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a vu des grands champions à l'époque, et en vrai bon, je dis pas que je dis pas que ils se piquaient pas, mais voilà, si t'as bien compris ce que je voulais dire.
Oui, en gros, il y avait moins de données statistiques et pourtant ils arrivaient à décrocher.
Ouais,
des
cartes, voilà, c'est ça. Et ouais, vraiment, je peux te le dire,
à s'écouter plutôt qu'à
et tu vois un mec comme Alain Philippe aujourd'hui, bah ça fait plaisir, parce que tu sais, oui, que le mec, on lui parle dans l'oreillette, bah il dit écoutez les gars, moi vous me laissez tranquille,
je vais. Et tu sais, avec Johan, il y a 18 mois, je pense qu'on a reçu Vincent Louis, le triathlète, et c'est marrant parce que lui, il est passé par les deux phases. Il a démarré, il a été très fort, donc il faisait attention à rien. Ensuite, il y a eu une bague de sommeil et tout, où ça l'obsédait. C'est-à-dire que quand il n'avait pas le score de sommeil qu'il voulait, ça le rendait dingue pour la journée. Et il s'est éloigné de tout ça, parce qu'il s'est rendu compte, psychologiquement, ça l'a pollué.
Ça pollue, ouais. Ouais. C'est ça. Et ce qu'il y a de bien avec Louis, c'est que tu vois, il t'explique qu'il y a tellement de méthodes. Lui, c'est la méthode qui lui correspond. Ouais. On a parlé la dernière fois du double seuil. Bah, tu vois, ça, c'est pas Louis, ouais, il est pas dans ce délire-là, c'est de double seuil, ouais, norvégien, lactate, machin. Ouais. Il est dans le qualitatif de ce qui lui correspond, et il a besoin de ça pour être bien dans ses baskets. Mmh. Et tu lui mettrais des données tous les matins à devoir faire du HRV, à devoir regarder son analyse d'urine et à prendre les lactates sur tous ses entraînements. Bah, je pense que voilà.
Tu me laisses 4 semaines, je pense.
Ouais, il brille au bout de 4 semaines. Ouais.
Le HRV, c'est la variabilité
cardiaque au réveil. Et ça, c'est pareil, c'est très à la mode et c'est très, très suivi. Mais c'est comme tout, c'est certaines personnes en ont besoin, peut-être à certaines périodes de leur vie, mais ouais, comme tu l'as dit avec Vincent, bah, tu vois, il a tout stoppé aussi.
Là, tu as passé le cycle de la prépa solide, tu es rentré dans la période de meeting, tu as atteint l'objectif que tu t'étais fixé, puisque tu as fait les minima à 8-13. On arrive dans une période où les compètes se multiplient, tu seras en compète le 15, tu seras en compète fin juin pour les championnats de France. C'est-à-dire que l'entraînement, c'est basé sur de l'entretien avant tout, entretien de la forme et du pic de forme.
Alors, dans mon malheur, j'ai un peu de bonheur, et c'est que pendant que les mecs ils vont préparer les championnats d'Europe, et je suis surperformé aux championnats d'Europe, ben moi je vais pouvoir m'entraîner. Et en fait, je suis reparti sur un cycle d'entraînement,
vrai, ouais,
qui va être de 2 semaines, 3 semaines, puis 10 jours de décompression avant les.
Tu veux placer un pic au championnat de France, redescendre, ouais, et replacer un pic pour les Jeux.
Ouais, c'est un peu ça. Après, en fait, je pense que la forme, elle va monter vraiment progressivement jusqu'aux Jeux. Et j'espère y participer. En tout cas, je vais tout faire pour y participer. Et là, par exemple, je ne suis pas encore tout à fait à mon poids de forme. Mais moi, voilà, par contre, ça, c'est une donnée qui est hyper importante
pour
moi.
C'est quoi le poids de forme ?
63,5.
Et la taille ?
1,82.
Ah, ouais, t'es, ouais, ouais.
Il est grand, hein.
Ouais. Ouais. Il est plus lourd que toi.
Ouais, bah, il est plus puissant. Ouais. Il, ouais, a, bah, des cannes.
En plus, cette année, pour le coup, je me suis mis un peu à la muscu. À la muscu. Et ça fait que...
63,5, c'est précis. Hein.
Ouais, bah, je sais que quand je suis à 64, je suis en forme. Mais 63,5, c'est un poids qui est vraiment dur à atteindre pour moi, hein, attention. Et pour moi, il faut être donc pour être sportif de niveau, faut exceller, et pour exceller, et ben voilà, faut être exigeant vers soi-même, et donc atteindre des critères assez précis au niveau poids, au niveau hydratation, sommeil, ouais, etc. Sûr. Et c'est en vrai, je rejoins assez Vincent là-dessus, Vincent Louis. C'est que moi, je suis pas quelqu'un qui est très très rigoureux hors saison, mais par contre, quand je suis dans ma saison et que je fais vraiment bien les choses, c'est, ouais, là que je deviens tueur.
Ouais.
Et je trouve que c'est génial. Moi, là, je le fais vraiment là. Depuis que j'ai appris ma non-sélection au championnat d'Europe, je me couche vraiment tôt, j'essaie de bien faire, ouais, les choses, je m'étire tous les jours. Et je trouve que de se mettre une rigueur comme ça à l'entraînement et sur les à côté, bah, ça fait que quand tu arrives sur la piste, tu te dis, mais j'ai fait tout ça.
Ouais, voilà.
Pour pas
ça, pour stresser, ça gonfle le moral, tu vois, ouais, voilà, toi, on en parlera dans la séance d'ailleurs.
C'est ça,
c'est une certaine c'est une préparation physique mentale, pardon.
Grand espoir de l'athlète, très fort en cross avec l'équipe de France, des soucis physiques ensuite, je le disais, donc syndrome de l'essuie-glace, ce qui paraît fou pour un coureur comme toi, parce que souvent nous on parle à des néo-marathoniens qui découvrent ça. Problème de chaussures, t'as mal comme ça sur les sur les côtés des genoux, et toi ça t'est arrivé des deux côtés, quoi.
Ouais, non, ça, franchement c'est
mais c'est une sale période, hein, t'as du mal à la digérer. fonctionné, j'ai l'impression.
Non, non, mais c'est... En vrai, c'était une période très dure pour moi, mentalement. Parce que tant qu'on n'a pas accepté la blessure, déjà, on ne peut pas avancer.
Ouais, c'est sûr.
Donc ça, je peux en parler et j'espère que vous qui nous écoutez, si vous êtes dans cette période, déjà, vous avez mon soutien. Et la deuxième partie, apprenez à accepter que vous avez une blessure. Et
à lever le pied.
Ouais, déjà, lever le pied, ça, c'est indispensable. Et ensuite...
Ne masquez pas la réalité.
Ah non, non, ça, c'est la pire erreur à faire et je l'ai faite. Et vraiment, il faut passer donc outre cette blessure. Et une fois que vous l'avez fait, partir au travail, parce que c'est du travail pour guérir une blessure. Hein. On va pas se mentir, hein. C'est pas que du repos, c'est du travail.
Nous, on l'a vu avec Johan qu'on a suivi quasiment toutes les semaines pendant deux ans de blessure. Ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est terrible.
Non, non. Et donc moi, du coup, Johan, on sait qu'il a traversé pas mal de blessures et de moments assez difficiles. Et en fait, pour un sportif, c'est catastrophique d'être blessé.
Bah ouais.
Parce que nous, c'est notre métier. Il y a des gens qui parlent de passion, etc. On est évidemment des passionnés, mais en plus, c'est notre métier.
Bien sûr.
Donc c'est notre revenu. En plus de ça, c'est notre raison de vivre d'une certaine manière. Parce que, moi, quand je vais au stade, j'ai le sourire quand ça va bien.
Ouais.
Et du coup, c'est donc.
Avec cette volonté exacerbée par la grande échéance qui arrive là.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, moi, en fait, ce qui s'est passé l'an dernier, c'est qu'en décembre, en vrai, donc, j'ai pas coupé après les championnats d'Europe parce que grosse déception, championnat d'Europe de 2022.
Ouais.
Donc, je coupe pas et puis ça se passe assez bien. Je fais une préparation foncière. Je vais sur 5 km, je gagne les championnats de France. Après, je fais un 10 km. Je fais 28-38 assez facile en menant la grande majorité de mon 10 km. Un 10 km local d'ailleurs, parce que j'adore représenter les locaux.
Ouais.
Et ensuite, je me prépare pour la saison hivernale en faisant pas mal de vitesse, malgré les températures avoisinant les moins, etc.
Oui. À Fontaine-Lossacaille.
L'humidité, la forêt.
Pas piste couverte en plus.
On a
le bonheur d'avoir une piste couverte,
sont bien.
Mais on travaille quand même dehors. Parce que c'est important même, on fait du cross, mon entraîneur garde cette philosophie du cross et qui est hyper importante en vrai.
Ah oui, les valeurs de combat,
de bataille dans la
homme. Qu'est-ce que c'est dégueu d'ailleurs.
Rappelez ce club, donc Flo Carvalho qu'on a déjà reçu, Mehdi Frère, toi, il y a une densité énorme.
Leïla
Hadji qu'on avait reçu.
Et puis il y a énormément de monde qui est
Charlotte
passé. Le club de Fontainebleau, on reviendra après sur ma blessure, mais le club de Fontainebleau, c'est un club qui est vraiment formateur. Et moi, c'est pour ça, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, il y a un aspect qui est vraiment financier. Je pense que l'athlétisme, d'ici une dizaine d'années, va rentrer dans une autre sphère où le financier va rentrer vraiment en compte. Comme, un petit peu se rapprocher peut-être de sports comme le handball, pas encore le basket, peut-être au niveau national. Mais donc du coup, avec cet aspect, il y a beaucoup de gens qui font les pirates, je les appelle les pirates, et qui vont aller dans des clubs pour gagner de l'argent.
Les mercenaires.
Et moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait le choix de rester dans mon club, qui n'est pas un club qui est millionnaire, et pas du tout même, mais j'adore l'état d'esprit qui y règne. Et puis les jeunes, je les connais tous, je m'entraîne avec eux, et puis c'est des jeunes qui prometteurs.
La compétence de ton coach aussi.
Bien sûr, tout à fait. Il y a mon entraîneur, et puis on est très très bien entouré. C'est un club de coureurs, on est excellent dans le demi-fond, mais on a aussi beaucoup de sprinteurs. Et quel plaisir d'être à Fontainebleau, la forêt,
le château.
Le cadre est sublime.
J'appelle
ça. C'est chouette. Ouais.
Flo, il se moque de moi à chaque fois, mais moi, rien que parce que je kiffe l'endroit, je suis né à Corbeil-Essonne, pour vous rendre compte un peu du contrario.
Ah oui.
Et j'ai grandi là-bas, et quand je suis arrivé à Fontainebleau, j'ai dit, mais on est où là?
C'est fou.
Et puis.
Je suis
14. Ouais. Non, mais quel plaisir de courir à Fontainebleau, dans les rues de Fontainebleau, dans le château. Je cours souvent au parc. Flo, il me dit, mais arrête avec ton parc, viens, on va courir dans la forêt. Et puis,
Un problème. C'est qu'il aime pas courir lentement, donc plus dès qu'il court,
Non, mais même là, ce week-end, on a un footing tranquille. Tranquille, les gars, tranquille, pas plus vite que 3:35, etc. Et puis vraiment sur la fin. Flo, qu'est-ce qu'il nous fait? Allez, on arrive à 40 minutes, on avait 1h10, déjà on a fini à 1h20, et les dernières 40 minutes, on était à 3:30, 3:25, tu dis oh là là.
C'est le côté nocif du groupe.
Quand
il y en a un qui est un peu plus en forme que les autres, il tire tout le monde
Faut faire gaffe. Puis en plus, Flo, en ce moment, malheureusement, il est obligé de mettre sa carrière sportive un peu de côté et rentrer à la police. Et du coup, quand il est dans les bois, il se fait plaisir. Et puis, ça fait plaisir quand même de le voir à l'entraînement.
Et pour terminer sur la blessure, le protocole de guérison, tout ce par quoi tu es passé.
Du coup, en revenant sur la blessure, donc moi j'ai eu une période de foncière vraiment top et je me suis régalé. Et en fait, dès que je suis arrivé en salle, j'ai commencé à avoir un syndrome rotulien. Et en fait, on s'est rendu compte que bon, j'avais un problème au niveau de ma rotule. Et en plus, on s'est rendu compte que j'avais des fissures au niveau des ménisques. En fait, j'ai des vrais problèmes de genoux, moi.
Ah ouais.
Et mais bon, ça s'estompe en renforçant. J'ai fait beaucoup, je suis passé par beaucoup de renforcements.
Du quadri.
Ouais, quadriceps, ischio. Bah, en fait, chaîne poste et ouais. Chaîne.
Devant.
Devant, ouais, on va appeler ça comme ça.
Bah, prêt, je pense. C'est prêt.
Et,
ouais, prêt
poste. Et vraiment, beaucoup de renforts. Et en réalité, toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont blessées, laissez pas forcément votre corps tranquille. Arrêtez de courir, évidemment, si bah, vous êtes forcément des runners. Arrêtez de courir et passez sur le vélo, sur l'elliptique, allez nager et faites beaucoup de renforcement. Et c'est ça qui va vous permettre déjà de laisser tranquille l'articulation qui vous gêne et en plus d'avoir une rééducation qui sera optimale parce que tu laisses ton corps souffler et en plus tu vas te préparer autrement et puis ça va t'aérer l'esprit. Il y a aucun coureur qui aime nager, il y a aucun coureur qui aime faire du vélo.
Ah non.
Moi ça m'aère pas l'esprit moi quand je dis.
Mais bon, ça, je sais, bah yo, t'en as souvent parlé, tu dis quand je vais revenir sur la piste, mais les mecs ils sont pas prêts quoi.
Ouais,
c'est ça, quand tu fais un truc que t'aimes pas.
T'es 100% guéri aujourd'hui, t'as plus d'appréhension, plus rien.
Non, donc du coup j'arrive, je rentre dans ma saison, je sors de ma saison hivernale, 6e au championnat d'Europe en salle, sur 1500 mètres. La finale en indoor la plus relevée tout le temps, je pense. Vraiment, les mecs, c'était des tueurs. Ça faisait 3:33, 3:30 en salle. Faut se rendre compte que c'est vraiment des chronos en extérieur. Oui. Déjà, tu fais ça, t'es fort. Hein.
Parce que la piste est petite en
salle. Ouais, tout à fait, ça tourne plus. Donc, force centrifuge, etc.
Oh, vache.
Et en fait, je sors de ça et je me dis, moi, écoute, Louis, tu rentres dans ta saison estivale, tu vas les tuer. Tu te prépares physiquement. J'ai fait la pire erreur du monde et je la déconseille à tout le monde. Je me suis surentraîné et donc je m'entraînais le matin, puis j'allais en muscu. Et puis le soir, j'étais en séance. Évidemment, l'entraîneur qui est derrière me dit « Louis, mais attends, tu fais n'importe quoi là. T'inquiète, Thierry, c'est sous contrôle. le mec, ça fait 30 ans, 40 ans qu'il fait ça. Il me dit « Louis, tu fais une erreur. » Et toi, tu lui dis « Non, t'inquiète, je sais faire. »
T'inquiète, je mets ouais. Jusqu'à la sortie
de... À 25 ans. Hein, ouais.
Et en fait, honnêtement, je vous jure, et ça, je pense que c'est important de le dire, à partir du moment où t'es athlète ou sportif et que t'arrives à saturation mentale, ouais. C'est que tu fais une erreur.
Ouais.
Vraiment. Et moi, en fait, au bout de 10 jours de préparation, je m'entraîne 3 fois par jour, etc., quand même malade, je suis mort. Et puis, je vais faire un bain froid à geler à Fontainebleau, à 4 degrés le truc. Tu dis, vas-y, j'ai pas envie d'y aller. Et tu y vas quand même parce que tu te dis, si tu y vas pas, tu vas te blesser. Et j'y vais. Et tellement qu'il était froid, ce bain froid, j'ai pleuré. J'ai pleuré de douleur, je te jure. Et mais j'y suis resté. Hein, en plus,
c'est la tête qui a lâché. Quoi.
Ah ouais. Et là, j'ai dit, c'est chaud. Et en fait, j'ai complètement décompressé. Et je me suis relâché. J'allais un coup sur deux à l'entraînement.
Ah ouais.
J'étais crevé. Et en fait, après, je reprends.
Sur entraînement.
Je reprends. Et ouais. Et donc, je me fais l'essuie-glace à droite. Essuie-glace à droite. En fait, dans une saison assez charnière post-olympique et qui est importante quand on le voit encore avec le ranking aujourd'hui. Mmh. On se dit, vas-y, on infiltre et puis on reprend progressivement. On infiltre, on reprend progressivement et on passe directement genou gauche. Et là, c'était... Là, tu te dis, coup de massue sur la tête. Tu te dis, allez, on va... Ouais, c'est ça, exactement. C'est en vrai, quand tu vois la chose, tu te dis, c'est de la logique. Et du coup, ouais, TFL à gauche, on essaie d'infiltrer pareil, mais ça passe pas du tout. Et après ça, on reprend le temps, rééducation, renforcement, réduction des kilomètres. Mais tout ça s'est passé en 8 mois.
Hein. Ouais, c'est long.
Je suis passé par Cap Breton qui m'a donné le bagage nécessaire pour le renforcement. Cap Breton, un centre de rééducation.
Ouais, c'est la vie du Johan Durand qui a raconté.
Connu niveau international, européen, on va dire. Ouais. Et indispensable pour moi, il a été cette réduction kilomètre au niveau des kilomètres et le renforcement, en fait. Et ça a été une vraie révélation pour moi.
Ouais.
Parce que le renforcement, c'est un secteur qui est un peu délaissé pour les coureurs, les runners.
Oui, parce qu'on se dit que les jambes sont musclées.
Nous, on en parle souvent. On fait des thématiques spéciales.
Exactement.
Et vous avez bien raison de le faire. Oui. Parce qu'en vrai, un corps, c'est Yoko qui a dit ça.
C'est pas lui qui l'a inventé. Hein.
Non. C'est un corps fort obéi, un corps faible dirige, c'est ça, un truc comme ça.
C'est un corps...
Ouais, bref, c'est à peu près ça l'idée.
On lui demandera.
Ouais. Et à l'heure d'aujourd'hui, mon corps est de plus en plus fort. Pour vous donner un repère, moi, au début de l'année, en demi-squat, j'arrivais pas à porter 100 kilos sur mes épaules. Et aujourd'hui, je suis à 180, 3 reps.
Ah oui.
Et c'est pas du tout excellent ce que je fais.
C'est non,
bien.
Mais c'est voir la progression.
C'est pas forcément du haut niveau, ouais, mais voilà, pour dire que j'ai vraiment progressé et c'est hyper cohérent par rapport à ce que je montre aujourd'hui sur la piste.
Ok. Louis, si on se projette sur Paris, on espère que tu seras qualifié. Vraiment, on te le souhaite. Les championnats de France seront décisifs, mais on espère que tu y seras. J'ai noté les séries le 5 août, la finale le 7. Si tu vas à Paris, l'objectif, c'est quoi?
Je vais être très honnête et on a du mal à dire ça en tant que c'est une philosophie qui est assez française. Hein. Attention, je suis très fier d'être français, mais on a tendance à dire ouais, je sais pas trop. Moi, la vérité, quand je prends le départ d'une course, hein, et ça depuis que je suis tout petit, il y avait Maïdine Mekissi dans ma course en championnat de France élite en je sais pas, je dirais 2017-2016, et je me disais mais je vais gagner. Et moi, en vrai, la vérité, que je prends pas le départ d'une course sans avoir quelque part dans un coin de ma tête que la gagne est possible.
Oui, si tu vas, c'est que tu te dis que c'est possible.
Ouais. Tout à fait. Et en réalité,
pas de barrière.
Ouais.
Alors qu'il fait du steep.
Ouais. Non, mais la fédération, et ça, c'est assez bien fait. Bon, il y a quelques trucs qu'il faudrait revoir, mais elle sélectionne ses athlètes parce qu'ils sont capables d'eux. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Il y en a qui ne sont pas sélectionnés malheureusement alors qu'ils sont capables. Et malheureusement, la fédération attend beaucoup de choses de ce côté-là. Et donc, ils veulent plutôt qu'on prouve avant de devoir prouver, on va dire. Et du coup, c'est dur pour certaines personnes. Mais moi, en vrai, je l'accepte bien parce qu'un athlète qui est performant et qui rentre dans les critères de sélection de la fédération, bah, une fois qu'il est au championnat, s'il ne performe pas, la fédération de son côté elle a dit bah écoute nous on l'a sélectionné parce qu'il est capable de, et ça je trouve c'est hyper important. Et à l'heure d'aujourd'hui les critères de sélection sont entre mes cibles, on est trois gars entre 8-16 et 8-13, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé ça je pense en France, et donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément médaillable aux Jeux Olympiques, mais par contre c'est un niveau qui est vraiment relevé, et moi à l'heure d'aujourd'hui je suis 9e en termes de chrono mondial. Ça a peut-être bougé depuis hier. Je suis aux alentours des 10-12. Et tu te dis...
Il y en a combien en finale?
On est 12, je crois, ou 15. Et tu te dis, c'est des chronos qui commencent à parler. Tu te dis, si t'as une bonne pointe de vitesse, ce que je suis en train de bosser, et tout est possible.
Ça peut le faire.
Si je te dis, c'est finale, déjà tu signes? Même sans connaître le résultat de la finale ou pas?
Ah, une fois de plus, je t'ai dit, je suis compétiteur. Bien sûr que je signe, parce que attention, une finale olympique.
Hein.
Finale olympique.
Chez toi, en plus.
Moi, avant de participer à mes premiers Jeux olympiques à Tokyo, je me suis dit, mais attends, les Jeux, c'est cool, tu vois. Mais une fois que tu as vu une fois ce que c'était que le village olympique, un village olympique, c'est 10 000 athlètes d'un niveau international réunis au même endroit.
De tous les sports.
Dans une ville.
Ouais.
Une ville. Vraiment, c'est une ville, le village olympique. Et c'est pour ça d'ailleurs que je comprends pas trop moi les gens qui sont contre les Jeux Olympiques. C'est un événement qui est magnifique.
Ça passera, t'inquiète pas.
Ouais. c'est le Graal en termes de performance pour un sportif de haut niveau, et quelle fierté d'en avoir à Paris. Et du coup, donc finaliste à Paris, bien sûr que je signe, mais je me prépare mentalement, physiquement pour de belles choses, et ça en fait partie. Mais si je peux faire mieux, je vais pas me gêner.
On espère que tu y seras, et on passe tout de suite à la séance.
RMC,
la séance.
Projection au 5 août, les séries pour Louis Gilavert. Projection à samedi pour nous, Johan Durand.
Oui.
Le record du monde RMC Garmin. Le stress qui monte à quelques secondes du starter. C'est votre tour de prendre le relais et d'aller vous élancer sur la piste. La pression monte, le cœur, la fréquence cardiaque aussi. Comment bien gérer ce stress, l'évacuer ce stress avant une grande échéance? Quels sont les bons conseils qu'on peut donner, Johan?
Bah, c'est les conseils pour mieux gérer son stress. Je dirais la première chose, c'est d'arriver préparé. Tu vois, Louis, tout à l'heure, il en a parlé. Une des clés du succès, c'est la confiance en soi. Et une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Ouais. C'est-à-dire que plus tu vas faire les choses bien, plus tu vas arriver avec justement ce bagage mental où tu seras moins stressé et beaucoup plus en confiance. Donc effectivement, les gens pour le relais par exemple, ils ont été avertis il y a 6 mois qu'on a lancé le truc, ils se sont préparés, ils ont fait des tests de performance. Donc effectivement, sur leur niveau, sur leur capacité, il faut pas qu'ils stressent, parce que voilà, j'imagine qu'ils se sont bien préparés, qu'ils ont suivi un entraînement adéquat. Donc ça c'est très bien, c'est la première chose. Quand tu fais bien les choses, bon, c'est calé, ça c'est fait, c'est là-dessus tu as un pouvoir. La deuxième chose à faire, c'est d'avoir un plan. Tu vois, on en avait parlé ici sur Marathon, avoir un plan A, un plan B, les choses comme ça. Et il faut toujours s'attendre à l'inattendu, tu vois, c'est-à-dire que anticiper des situations qui peuvent arriver, tu vois. dans le cas de Louis, admettons, qu'est-ce qui se passe si je chute? Comment, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais l'effort tout de suite pour recoller? Est-ce que j'y vais au tempo? Est-ce que, voilà, tu vois, situation inattendue, ça chute derrière lui. Louis, il est en tête à 500 mètres de la ligne. Qu'est-ce que je fais? Tu vois, donc déjà avoir anticipé ces scénarios.
Ne pas s'enfermer dans un seul schéma, quoi.
C'est ça, ne pas s'enfermer dans un seul schéma de cours, tu vois. Pas avoir uniquement un plan A, mais un plan B, un plan C. Ça, c'est surtout, je parle l'exemple du marathon, c'est typique, tu vois. Qu'est-ce que je fais si au 25e, d'un seul coup, j'ai plus les jambes? Comment je me remotive? Les choses comme ça. Et puis après, il y a aussi anticiper l'inattendu par rapport aux conditions météo, tu vois.
Oui,
on ne sait pas quelle météo il va faire samedi et dimanche. Ça se trouve, il fera chaud, ça se trouve, il sera mauvais.
Si vous courez de nuit ou au petit matin.
Exactement. Donc là, il faut anticiper tout ça. Et après, l'autre chose qui est intéressante, et ça, c'est à Amaury Delorue qui en avait parlé dans notre podcast, préparateur mental de Gabituel, c'est de développer des rituels d'avant-course. Tu vois, avoir créé tes habitudes avant la course, à savoir quel type de musique j'écoute, les étirements, ta routine de respiration, faire des respirations profondes, les choses comme ça. Et puis t'aider de visualisation aussi, visualisation positive, se positiver en se voyant en train de passer le témoin avec un gros chrono, toujours positiver, les choses comme ça, tout ce qui peut vous aider à vous relaxer avant la course, avoir sa rituel, son protocole d'échauffement et tout pour pas justement faire face à face à le moins d'imprévus possible, quoi.
Si on apporte du concret à tout ce que dit Yoann, est-ce que tu as un rituel d'avant-course, Louis, qui te permet d'évacuer du stress comme ça?
Pour dire, moi, j'ai développé ça très tard. Et en fait, comme je l'ai dit, dans mes préparations, j'aime bien être hyper pointilleux. Ouais. Et du coup, là, je commence à avoir ma routine assez mise en place. Tu vois, je sais que moi, je fais 18 minutes d'échauffement. Et puis maintenant, si je la fais doucement ou pas, et ça ne change pas grand-chose.
Tu cours 18 minutes?
Ouais.
Pas 19?
Non, je cours 18. Par exemple, quand je fais mes gammes, je fais 20 ou 30 gammes. Je ne fais pas 21, je ne fais pas 31.
C'est bon, c'est des trucs. Ouais, mais c'est des schémas mentaux qui peuvent t'aider. Hein.
Maintenant, par exemple, avec les barrières, je sais que je travaille que ma mauvaise avant de démarrer. Et comme ça, je n'ai pas peur d'envoyer la mauvaise jambe. Ouais, c'est des petits trucs comme ça qui font qu'une fois que tu arrives au moment de ta course, tu es en confiance, tu vois.
Et au moment fatidique, quand le starter va être donné comme ça, quand il va y avoir le coup de pistolet, est-ce que tu as des conseils? Est-ce qu'une grande bouffée d'oxygène, tu fais baisser le cardio au maximum? Qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les yeux?
Non, moi vraiment, une fois que tu es sur la ligne de départ, j'estime que toi, tu attends juste ce moment-là. C'est ce moment-là, tu as bossé pour tout ça.
Ouais.
Et en fait, c'est une forme de délivrance. Et maintenant, il ne reste plus qu'à t'exprimer.
Ce sera le cas pour ceux qui ont été retenus aussi.
C'est ça. C'est
la délivrance, c'est l'opportunité unique.
Il était plus de 900 à vouloir courir. On n'a que 144 personnes. Donc, c'est une chance d'être là. Et c'est la délivrance. Il faut y aller.
Bien sûr. Il faut savoir saisir les opportunités dans la vie. Et la chance que vous avez, vous, en tant que personne, d'avoir un record du monde atypique en plus. Et franchement, c'est un événement qui va être dingue parce que c'est super cool de partager ça avec des personnalités et puis avec un grand nombre de personnes. On voit qu'il y a des volontaires qui viennent pour vous masser, etc. Mais profitez de cette expérience pour vous mettre un peu dans la peau d'un coureur professionnel, d'aller vous faire masser, de vous préparer de la meilleure manière.
Et d'avoir la piste pour vous, ils seront seuls sur la piste. Au moment où tu cours, tu es tout seul sur la piste.
Bien sûr. Et sur le stade sur lequel il y aura la Diamond League de Paris. Voilà,
en plus.
Ouais, c'est un stade qui risque de devenir un stade un peu mythique, d'une certaine manière, Charlotte. C'est déjà un beau stade, mais les années qui viennent, avec un meeting de Paris qui est vraiment...
Et les trois records du monde l'année dernière.
Ouais, qui est vraiment magnifique. Je pense que il ne reste plus qu'à se retrouver sur la ligne de départ et prendre du plaisir.
T'es le bienvenu, Louis, je te le répète. ou non,
si tu veux être champion du monde.
Voilà,
Recordman du monde.
C'est encore mieux. Merci en tout cas, Louis, d'avoir été avec nous.
Non, merci à vous.
C'était un plaisir, vraiment passionnant de discuter avec toi. On espère que tout va rouler au championnat de France et puis ensuite aux Jeux Olympiques. On se verra parce qu'RMC, c'est la radio officielle des Jeux Olympiques. Donc, on se croisera sur le tartan de Violet, je crois.
Il est violet, ouais.
Violet de.
Ça change.
Exactement. Merci Louis d'avoir été là. Merci
Maître
Yodu.
Merci à tous.
La tradition pour terminer, la musique que tu écoutes quand tu cours, t'as choisi Dog Days Are Over, Florence the Machine.
Ouais, c'est ça. C'est une musique que j'écoutais beaucoup quand j'étais blessé. j'ai couru contre un cheval avec cette musique.
Magnifique. Luigi Lavert, belle découverte. À bientôt, Louis, dans RMC Running. On te voit samedi si tu veux passer. T'es le bienvenu à Charletti. On vous donne rendez-vous. On aura un grand message sur les réseaux sociaux. On va tout vous réexpliquer. Rendez-vous midi à Charletti pour toutes les infos pratiques. Vous aurez le maillot, les chaussettes, le dossard, tout ce qu'il faut. Johan Durand sera là avec son bronzage. Donc là, n'hésitez pas.
Avec le bronzage, avec mes baskets aussi.
Merci Louis, merci Johan, et toujours ce conseil pour terminer: quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.